octobre et vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine, le Québec. Alors, chères auditrices, chers auditeurs, je devrais vous rappeler que nous sommes à la fin du mois et comme il est de coutume d'ailleurs, le micro de ce matin est réservé à une clientèle hautement sensible de notre société, une clientèle fragilisée par les abus de pouvoir et en particulier de celle qu'on appelle à tort ou à raison la direction de la protection de la jeunesse. Fragilisée, peut-être ce n'est pas le vrai mot, je dirais plutôt effondrée par des décisions arbitraires d'une part et d'une autre. Alors, nous connaissons tous bien sûr le rôle sublime de ces institutions qui sont au service de nos enfants et de notre jeunesse. Malheureusement, quand leurs personnels ne font défaut, sinon l'histoire change totalement. Alors maintenant, l'arbitraire volontairement ou involontairement, compétence ou maladresse, nous amène souvent à l'irréparable. Parce que justement, enlever justement un enfant ou des enfants de leur milieu familial pour une raison ou une autre, ce n'est pas une décision sans conséquence à contre long, à contre ou bien à long terme. Surtout quand il s'agit de motifs insuffisamment injustifiable. Maintenant, les intervenants dans les écoles, les enseignants, les voisins, les passants, tout le monde peut le faire, ce fameux signalement. C'est bien, mais il faut voir la réaction, je dis bien la réaction du ministère de la Défense, de la DPJ, quand elle débarque chez vous. Alors, il faut voir comment les parents sont traités et la suite de l'éloignement de ces enfants qui font l'objet de l'intervention. Les parents peuvent faire des erreurs et à la rigueur, on peut réparer et même pardonner, mais ceux de la direction de la protection de la jeunesse sont d'un poids inconcevable qu'on ne peut jamais réparer, encore moins pardonner. Alors ce n'est plus les lois en particulier qu'on critique ici, mais c'est plutôt ces fonctionnaires qui appliquent ces lois à leur manière, à leur goût, ces fonctionnaires qui se prennent pour Dieu le Père. Maintenant, accorder quasiment le pouvoir décisionnel à ses employés et abandonner le sort de nos enfants à la merci de ces gens est une erreur impardonnable, une erreur qui se répète au quotidien. Maintenant, un juge, je dis bien un juge de la Chambre, quand ici un juge de la Chambre de la jeunesse, porte rarement le fardeau de l'erreur. Voilà comment ces fonctionnaires de la Direction de la protection de la jeunesse prennent facilement le dessus. On a déjà dit, d'ailleurs, et on le répète, le gouvernement et depuis les 21 dernières années au Québec sont complices de cette négligence et leur silence est une preuve redoutable. Si on constate une sorte d'impuissance chez l'État depuis longtemps pour intervenir, c'est parce que le drame est devenu à travers l'inaction énorme, incontrôlable, au point de préférer le statu quo. Voilà pourquoi nos gouvernements préfèrent le silence à l'action. Remettre en question le travail de la direction de la protection de la jeunesse demande une mobilisation de taille et réclame beaucoup de sous. Alors, nos gouvernements successifs ont toujours trouvé leur contre dans le silence et fermer les yeux devient une sorte de porte-secours. Maintenant, dans ce climat presque aveugle, chères auditrices, chers auditeurs, les fonctionnaires de la direction de la protection de la jeunesse découvrent un terrain libre, propice à l'habitude humaine. Et c'est justement là où ils développent l'arbitraire, l'injustice à l'endroit de la famille québécoise. Et je me sens un peu mal de dire à l'endroit de l'enfant, cet être doublement victime de négligence, l'État pire que les parents, puisque la vie de l'enfant est transférée d'un enfer à un autre plus cruel. Maintenant, vous allez me dire, chère auditrice, chère auditeur, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, nous les citoyens, nous les victimes, nous les témoins de ces injustices? C'est simple, c'est de ne jamais cesser de dénoncer publiquement tout comportement, attitude, décision arbitraire, injuste. Il faut vous en parler et parler à haute voix. Alors maintenant, n'attendez pas, chère auditrice, chère auditrice, d'être victime pour le faire, n'attendez pas non plus le résultat de vos efforts, c'est le nombre de dénonciations et la gravité de cette dénonciation qui va finir par réveiller la conscience de nos politiciens. Derrière chaque ralentissement de l'abus, de la cruauté, de l'insensibilité, il y a une dénonciation. Alors ne manquez pas, s'il vous plaît, de le faire et le faire à haute voix. Il y a des enfants, des parents, des grands-parents qui ont besoin de cette voix. Au micro avec vous ce matin, Adjizitouni, président du Mouvement Action Justice, un organisme qui fait, soi-disant, la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer leur abus de pouvoir. Entouré par mes collègues animateurs de cette émission, M. Gilles Boivin et M. Yann Stoll, ils m'ont invité d'être parmi eux pour ce nouveau relancement de l'année. Je vous rappelle que M. Yann Stoll et M. Gilles Boivin, tous les deux bénévoles, n'ont aucun but sauf celui que justice prend le devant. Profiter de les écouter, l'expérience et le drame de nos enfants sont présents dans leur vie. Également, j'ai deux invités, j'ai Jacques et Fan. Alors, ils sont venus témoigner à leur tour le tragique de la DPJ au Québec en chute libre. Sans oublier, bien sûr, mon Ernest, donc il est parmi les personnes les plus frustrées de l'injustice que j'ai rencontrées dans mon parcours crapuleux de l'injustice au Québec. Voilà, chères auditrices, chers auditeurs, demeurez à l'écoute après notre thème musical, encore un autre épisode tragique orchestré par le DPJ et le tribunal de la jeunesse. Restez à l'écoute.
Sur les problèmes de société, où des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes, sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous se mettre à table, à condition d'être masqué, un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, les racketteurs sont à la lune. C'est une émission fantastique. Vous avez un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés. Je vous lance un appel, vous seul.
Alors voilà, bonjour chères auditrices, chers auditeurs, vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice. C'est une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors j'ai ma première question qui va aller directement à M. Gilles Boivin, peut-être. Bonjour Gilles.
Bonjour M. Citoyen.
Alors merci de m'inviter, j'ai pu participer avec vous.
C'est grandement plaisir.
Alors avant de passer justement avec mes invités qui sont là, oui, et leurs témoignages, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous préparez pour les auditeurs qui vous attendent les mois prochains.
Ce qu'on concocte pour la nouvelle saison.
Voilà,
j'aimerais dire d'emblée que je suis heureux d'être encore sur les ondes pour cette nouvelle saison aussi. L'année passée, nous avons traité de différents thèmes. Tout d'abord, il y a eu la création de la CFDPJ et l'implication de ses membres au cours des années. On a parlé des principaux problèmes engendrés par le système de la protection de la jeunesse au Québec, des victimes de la DPJ, les recours possibles contre les abus de la DPJ. On a apporté des visions nationales et internationales de la problématique, des témoignages. On a parlé de la perte des droits parentaux, les familles d'accueil, les fameuses signatures de documents proposées par la DPJ, l'attitude à adopter lorsque la DPJ entre dans votre vie, l'utilisation de la famille élargie. On a traité des suicides dans le centre d'accueil, les coûts de la DPJ, l'enquête publique exiger l'impact du retrait d'un enfant de sa famille, etc. Donc, pour la nouvelle saison...
C'est un tableau là, vraiment large.
Oui, oui. Et pour la nouvelle saison, ben, plusieurs thèmes associés à ce que nous avons déjà traité, puisque c'est incontournable, seront abordés, mais sous des angles différents. Et plusieurs témoignages seront présentés encore une fois, dont celui percutant de Mme Karine Bonnier, que j'attends... avec intérêt. Mère de Guillaume Crépeau-Bonnier, un adolescent de 15 ans trouvé pendu dans sa douche en mars dernier au centre Huberdeau dans les Laurentides. Or, Mme Bonnier aurait dû d'ailleurs être ici ce matin, mais elle était dans l'impossibilité de le faire. Bon, on la reverra éventuellement. Oui, oui. On sait qu'une enquête avait été ouverte par la suite par la Sûreté du Québec et le bureau du coroner. On sait aussi que le jeune n'avait jamais reçu reçu hein, les services psychologiques ordonnés par la Cour, même après 8 mois de prise en charge par le DPJ. On peut se poser des questions. Or, un rapport et des recommandations ont été déposés depuis ce temps par la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, de même que par le fameux commissaire aux plaintes de la DPJ des Laurentides, M. Hubert Côté. Puis on a bien hâte de prendre connaissance de tout ça.
Vous aurez réservé ça, j'imagine, quand votre témoin va être ici sur le plateau.
Absolument. Alors ça promet. J'aimerais bien aussi interviewer, on peut toujours rêver, Mme Lucie Charlebois, ministre déléguée à la réadaptation, à la protection de la jeunesse et à la santé publique. Ouais. Mais bon,
vous pouvez toujours faire la demande.
On peut toujours faire la demande. Ouais.
Alors, mais j'aimerais bien vous souligner, les gens qui nous écoutent ce matin, mais chaque fois que vous allez faire des interventions, vous avez fait des interventions, vous avez toujours des témoins qui appuient les dires, c'est excellent.
Mais j'aimerais ajouter aussi...
Et on se tourne, oui.
J'aimerais ajouter aussi que ça dépend, les contenus des émissions prochaines vont dépendre aussi de la réponse des auditeurs. S'il y en a qui sont intéressés à participer à notre émission, vous invite d'appeler au bureau de Mouvement Action Justice qui vont vous...
Le 514-273-4302, je répète 514-273-4302, pour tous ceux et celles qui veulent participer à l'émission avec le groupe Défense des droits des enfants. C'est
bien
ça,
sûr,
Yann? C'est ça
sûr.
Votre message?
Voilà.
Allez. Maintenant, je passerai directement. Jacques, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous arrivez ici avec un drame sur le dos, celui, malheureusement, une rencontre avec la DPJ. Est-ce que c'est exact?
Oui. Alors, d'abord, j'aimerais vous dire merci de l'invitation et de l'opportunité que vous me donnez d'être en onde.
OK. Mais Jacques, si vous voulez, ou les gens qui nous écoutent ce matin, comment pouvez-vous nous résumer, mais rapidement, l'événement, même si je sais que c'est un petit peu long?
Oui. Malheureusement, 2010, la protection de la jeunesse, le directeur de la protection de la jeunesse m'a téléphoné pour me faire part d'un signalement dont ma fille avait été victime d'attouchement sexuel. Donc, selon les directives de la protection de la jeunesse...
Jacques, vous ne vivez pas avec votre fille à ce moment-là?
J'avais ma fille, j'étais en processus de demander la garde pleine, étant donné qu'il y avait une négligence de sa mère. Ma fille avait des échecs scolaires, beaucoup de retard à l'école. Okay. Et un juge m'avait accordé d'avoir ma fille les mercredis pour voir à ses études et ses notes scolaires étaient passées de 25 % à 85 %. Donc, j'étais en train de faire mes preuves que j'étais un bon père et les résultats scolaires de mon enfant étaient vraiment positifs et même ma fille s'était confirmée dans ses rapports avec son avocate étant donné qu'on était sur le bord d'avoir le procès pour la garde pleine.
C'est là où ils arrivent l'événement.
Exactement.
Là, tout, là.
L'événement est arrivé. J'étais officiellement sûr d'avoir la garde pleine de mon enfant étant donné que le prédateur sexuel était le conjoint de la mère en question.
De la mère, oui.
Donc, évidemment, c'était sûr que j'étais pour avoir la garde.
Pour dire aux gens qui vous écoutent, Jacques, comment le signalement a été? Est-ce que c'est la fille qui a fait le signalement?
La manière dont ça s'est produit, moi, ce que j'en ai déduit, c'est que mon enfant n'a parlé... pas que j'ai déduit, excusez, c'est ce qui a été dit en réalité.
Oui.
C'est que mon enfant n'a parlé à ses amis. C'est un parent d'un ami qui aurait fait le signalement pour aviser. Et malheureusement, le DPJ a pris 12 jours avant d'aviser moi et la mère. Donc, ils ont laissé le pédophile
avant
d'intervenir auprès des parents.
Et l'enfant, quel âge?
Ce qui arrive très souvent, malheureusement, même si la loi ou légalement ont l'obligation d'agir dans les 24 heures, si c'est en train de se produire, mais...
Ça peut traîner plus, c'est ça ce que vous dites?
On connaît la réalité, ils sont inflexibles, alors... Le temps que ça prend, c'est à eux de décider. La loi n'a rien à dire dans leur agissement.
Ernest, rapidement.
Précision, quel âge avait l'enfant au moment du signalement?
Au moment du signalement, l'enfant était à quelques jours plutôt d'avoir 11 ans.
11 ans?
Oui, exactement. Excusez, 12 ans. Elle avait 11 ans et il y a eu un autre signalement par après que je vais aborder.
Alors, juste pour continuer, il y a eu le signalement, donc la DPJ sont pris quand même 12 jours pour rentrer, mais est-ce que vous étiez informé avant?
Non, aucunement. Ma fille gardait ça secret pour elle. Elle avait peur de mes réactions concernant le pédophile, étant donné que j'avais quand même une proximité avec. Durant les échanges des enfants, j'étais très convivial avec. Pour moi, c'était en bonne et due forme. C'est une bonne relation. Dans le fond, il ne fallait pas que l'enfant voie qu'il y avait des...
C'est surpris, j'imagine.
Moi, ça a été complètement un choc total.
Sur un enfant
de la haine pour moi, ce que j'ai vécu. c'était bon.
Maintenant, pouvez-vous nous expliquer la réaction de la DPJ? Est-ce que c'est la police qui sont rentrés directement?
Ben, moi, ils m'ont dit chercher mon enfant. La police, le corps policier de la ville en question s'est déplacé. Ils ont fait une entrevue vidéo avec mon enfant. Il y avait matière à poursuite criminelle. C'est bien marqué dans les dossiers. Mm-hmm. La personne devait passer le 23 décembre 2010 à la cour et la procureure n'a jamais donné suite. Donc, j'ai rencontré la procureure et elle m'a dit, c'est moi qui décide si je porte les accusations.
Ah, il n'y avait pas d'accusation?
Aucune accusation criminelle, mais j'ai fait noter la journée du signalement, moi, j'avais essayé de rejoindre la mère parce qu'elle n'était pas rejoignable. J'ai parlé avec la grand-mère et la grand-mère m'a dit, moi, y aller, moi, DPJ, m'a tout réglé, il n'aura pas d'accusation. Parce que la grand-mère en question a des rapports avec des corps policiers et le milieu criminel. Donc, je parle ici de grosse corruption avec preuve.
Mais quand vous dites, monsieur, qu'il n'y avait pas de réaction, il n'y avait pas d'ouverture de dossier, pas d'enquête, est-ce que vous voulez dire, vous avez la certitude que votre enfant a été, il y avait des attouchements sexuels, c'est ça?
Bien, la certitude a été confirmée par un rapport sexologique que j'ai en main propre, étant donné que je me représente seul. J'ai étudié le droit depuis 2010, j'étudie encore le droit. Oui. Et donc, j'ai le rapport sexologique qui confirme à 100% qui est pédophile, qui a fait ses aveux, et malgré que la procureure, pour ça qu'il n'y a pas eu de poursuite, la procureure m'a donné comme raison que ce serait difficile de lui faire avouer.
Alors qu'il y a des aveux.
Alors qu'il y a des aveux.
Et le rapport sexologique date de quelle année?
Il date de 2011, si je ne me trompe pas. 2010,
quelques mois plus tard.
Il était obligé de le faire, mais durant le procès, ils ont dit que monsieur avait fait différentes thérapies et des affaires de 10 rencontres. Mais quand on lit le rapport sexologique, c'est complètement faux. Il y a eu seulement qu'une heure d'entrevue et j'étais intervenant en thérapie. Je sais comment ça fonctionne et le rapport est complètement bidon malgré ses aveux. La conclusion est totalement faussée. Même la conclusion est faite sur des statistiques Canada concernant des personnes qui ont fait de la prison. Et on sait bien qu'un pédophile ne ira jamais se redire, dans le fond, se dénoncer lui-même, excepté si les victimes parlent. Les conclusions de Santé Canada, là, on va en passer.
Mais Jacques, moi, ce qui me dérange énormément, là, il n'y avait pas d'accusation. Ils n'ont pas porté l'accusation contre monsieur.
Aucune accusation. Et de plus, un juge a remis le pédophile en contact avec mon enfant et étant donné que je suis un père de famille qui aime ses enfants, j'ai pris mes responsabilités. Je suis pas quelqu'un. Beaucoup de personnes m'ont dit, moi, j'aurais m'arrêté avec le pédophile moi-même. Ben, écoutez, moi, je suis un père responsable et c'est pas en faisant des actes de violence que je vais revoir mes enfants le plus vite possible. Donc, j'ai étudié et on a essayé de me faire passer pour un délirant.
Mais Jacques, juste pour vous dire une chose, là, un juge qui est devant lui une sorte d'accusation comme quoi il y a un pédophile et il remet l'enfant avec le pédophile, c'est un peu lourd là, c'est difficile là. Comment on pouvait convaincre les gens qui les écoutent que ça a pu aller ça?
Comment ça a pu aller? Tout simplement avec
c'est un juge, le juge il est pas aligné là, le juge il est quand même pour le moins,
je dois vous contredire.
Vas-y, j'aimerais bien. Oui.
Les juges étaient à l'origine, là, dans la majorité des cas, des avocats, des centres jeunesse. Alors, les juges sont alignés avec le système. Il n'y a aucune impartialité dans les tribunaux de la jeunesse. En plus, le tribunal de la jeunesse, en soi, c'est une loi, c'est un tribunal d'exception.
Okay. Mais il s'agit d'une accusation
qui est en contrefaçon des droits garantis par la Charte canadienne de droits et libertés, qui est en infraction des droits de l'homme.
Ernest après. Oui.
Je vais vous faire une révélation concernant vous poser la question là, pourquoi que les juges peuvent être impartiaux ou impartiaux.
Parce que la gravité de.
Écoutez, moi je suis un citoyen, un parent et beaucoup de personnes savent de quoi je parle. J'ai été, je peux vous dire et vous confirmer à 100% que des enveloppes brunes ça fonctionne. Quand j'ai fait part que je demandais la garde pleine de mon enfant, Le dossier j'avais engagé une firme d'avocats de Laval. Bien connu à l'époque. Et le dossier devait procéder à Saint-Jérôme. J'avais pris un package deal, comme on dit, là, un mode d'entente. Et deux semaines avant le procès, la firme d'avocats m'a communiqué et on m'a convoqué au bureau. Et ce que je vous dis, je l'affirme, là, vraiment une affirmation, on m'a demandé 5 000 $ supplémentaires. J'ai expliqué pourquoi 5 000 $ supplémentaires. On m'a dit, écoutez, M. Roy, excusez-moi, votre dossier, il est assez complexe et ce qu'on a fait, on a transféré votre dossier de Saint-Jérôme à Laval. Et ici, c'est notre château fort. Il y a un montant d'argent qui va aller à l'avocate de votre ex, qui va rester passé dans le dossier, un montant au juge, en 30 minutes, on sort d'ici, tout est fini, tout est terminé. Donc, si vous refusez, je vous laisse là-dessus, je vous donne votre dossier pour bris de confiance. Et j'ai une lettre comme quoi qu'elle m'a abandonné pour bris de confiance. Donc, je me représente seul, j'ai essayé d'avoir deux autres avocats, et étant donné que c'est un dossier qui est complètement chaud,
je me
représente seul par obligation.
Oui.
Et maintenant, étant donné que je sais comment ça fonctionne, c'est par choix.
Juste pour revenir à Ernest, moi, je ne suis pas convaincu de l'idée qu'un juge... J'ai de la difficulté à être... Comment un juge accepte devant un crime aussi crapuleux, on part de, vraiment de, d'attouchement sexuel sur un enfant de 11 ans, et un juge, il va remettre l'enfant au pédophile.
Obéissant au système, tout simplement.
Permettez-moi de rappeler à l'auditoire que des noms de juges ont été nommés dans le dossier de l'enquête Scorpion à Québec en 2003-2004.
Non, mais reviens-moi à le raisonnement. J'aimerais bien comprendre.
Client de réseau pédophile.
Oui.
Alors.
Mais quel est l'intérêt d'un juge? Moi, j'ai des difficultés.
Quel est l'intérêt d'un membre du mafia défendre la mafia? C'est la même question, s'il vous plaît. Ici, au Canada, au Québec, on n'a pas de séparation des pouvoirs législatifs, exécutifs et judiciaires.
Oui.
Ce sont les mêmes députés qui sont au pouvoir exécutif, qui nous donnent des lois, en votant des lois qu'ils concoctent dans leur cabinet. Et c'est eux-mêmes, c'est notre gouvernement qui nomme des juges. Alors, quelle séparation des pouvoirs?
Ouais,
c'est toute une seule et unique mafia.
Je suis d'accord, Yann, mais même à ça, nous sommes devant un enfant de 11 ans qui était agressé, qui était touché, et quelque chose on pose un geste grave.
Il y a des
L'intérêt du juge. Un juge accepte de retourner l'enfant sans avoir. Excuse-moi.
Vous, ça vous choque.
Ça me choque. J'arrive pas.
Il y a des gens que ça choque.
Je suis pas convaincu.
Pas. Et qui est-ce qui vous garantit qu'un juge n'est pas un pédophile en soi?
Voilà. Ça, c'est un petit peu trop.
Mais pourquoi?
Non, je n'ai pas dit
qu'est-ce
non.
Qu'est-ce qui vous garantit
non,
ça?
Mais vous poussez un petit peu la barre un peu plus loin. Mais je ne dis pas que vous n'avez pas raison, mais pour moi, c'est inconcevable.
C'est choquant.
Juste pour appuyer un petit peu l'idée de M. Stoll concernant les gouvernements. Vous savez, je fais des dossiers maintenant aujourd'hui et j'ai intimé en janvier dernier différents ministres dans un dossier à Saint-Jérôme, mais j'avais demandé à ce que le ministre de la Chambre de la Jeunesse enquête sur son ministère dans la requête que j'avais déposée. Et dans la requête du gouvernement, c'était qu'un ministre n'est pas attitré à enquêter sur son ministère. Je l'ai en preuve. C'est très inquiétant qu'on vote pour des gens, pour un gouvernement, et qu'on se fait dire à la Cour que le ministre n'a pas enquêté sur son ministère. Quand on regarde toutes les branches, écoutez, moi, le dossier de mon enfant m'a amené dans des hautes sphères d'études et d'enquêtes. Je suis aujourd'hui un enquêteur privé et j'ai beaucoup d'enregistrements, même. J'ai accompagné des parents dans des rencontres avec des intervenants. J'étais dans les salles d'attente et j'entendais des propriétaires de foyers de groupe. J'en ai sur enregistrement et je sais qu'en 2017, 70% de leurs intervenantes vont être à la retraite. Il y a beaucoup de changements qui se doivent d'avoir lieu. Et même sur les vidéos, comme quoi que les travailleurs sociaux, quand ils sont engagés, les directeurs ne vérifient même pas les antécédents de travail.
Ça, c'est de cas.
C'est très inquiétant.
Jacques,
c'est pas pour rien qu'un pédophile peut se retourner là.
Oui, mais Jacques, revenons un petit peu, revenons un petit peu à cette histoire-là. Mm-hmm. Votre fille, elle est revenue. Est-ce qu'elle a continué à vivre avec ce pédophile ou comment ça s'est passé?
Dans quel contexte, M. Jacques, quand vous dites que votre enfant a été remise avec le pédophile,
c'est dans quel contexte? Le contexte, c'est que le pédophile a dû quitter de la maison pendant un certain temps, jusqu'à la fin des procédures, étant donné que c'est l'avocate même de mon enfant qui a déposé le rapport sexologique en le faisant présenter comme un bon rapport. Le sexologue n'était même pas là. C'était une procédure illégale dès le départ, ce que je ne savais pas. L'enfant a été obligé d'accepter le pédophile, même dans les notes sténographiques. Mon enfant
a dit
qu'elle était
pas,
surpris qu'il revienne à la maison elle ne comprenait pas pourquoi. Mm-hmm. Alors que dans les procès, les débuts initiaux, l'avocate de mon enfant a dit qu'elle réclamait le pédophile, ce que pour moi, c'était frustrant. Je savais que c'était faux. 3 ans après, ma fille a pu témoigner et ça confirme que c'était tout un tissu de mensonges, la procédure.
Mais dans ce moment-là où il y avait l'enquête, où, est-ce que vous avez eu un contact avec votre fille ou non?
Non, on m'a interdit complètement de voir mon enfant pendant 3 ans. Il y a eu de l'aliénation parentale dans le dossier de ma fille parce que...
Après la dénonciation, il n'y avait pas de contact avec elle depuis 3 ans?
Bien, on m'a fait 2 visites. J'ai eu la première visite a très bien été. La deuxième visite, on m'avait...
Supervisée?
Oui, deuxième visite supervisée au centre jeunesse. La deuxième visite, l'intervenante, en arrivant, m'avait fait des menaces, de l'intimidation et je lui avais fait part que j'étais pas là, mais je connais avec, je voulais voir mon enfant. Et moi, en quittant, j'ai dit à mon enfant dans le creux de l'oreille parce qu'on me dit « Dis pas telle chose à ton enfant, dis pas telle chose. »
Ce qui est très fréquent.
En quittant, j'ai dit à mon enfant, j'ai dit « Inquiète-toi pas, Rebecca. » J'ai dit « Papa va dire toute la vérité et ça peut prendre un certain temps, mais je vais tenir bon. Puis écoute-les pas ce qu'ils vont dire sur moi. Je ne suis pas malade, je vais bien.
Okay. »
Or, l'intervenante a dit « Qu'est-ce que vous dites à votre enfant? » Je lui ai dit que je l'aime, mais mon enfant, je l'ai toujours éduqué à ne pas dire de menterie. Donc, pour elle, je venais de commettre un mensonge. Elle avait confiance au système. Pour elle, elle ne comprenait pas. Donc, c'était facile pour le ministère, les intervenantes, de faire croire à mon enfant que j'étais un malade mental, parce que pour elle, je venais de compter une menterie, étant donné que j'avais dit une chose à ma fille, de ne pas les écouter à l'intervenante, j'avais tout simplement...
Mais Jacques, vous savez que vous n'étiez pas autorisé de lui parler dans l'oreille. Vous le savez avant.
C'est tout à fait pas normal de ne pas pouvoir parler. Individu qui n'est pas parent et qui a le pouvoir de dire à un parent, quand on est parent, on a l'autorité parentale. Même selon le système, nous sommes propriétaires, selon les actes légaux, nous sommes propriétaires de l'identité juridique de cet enfant-là. Il n'y a pas un individu, même la Charte des droits et libertés de la personne parle qu'on a le droit d'éduquer notre enfant comme on veut.
Mais quel individu
de l'extérieur?
Jacques, vous partez un petit peu loin. Là. Donc, je parle de la visite. Il y a une visite mm-hmm. supervisée et il y a des conditions à cette visite supervisée et vous n'avez pas respecté cette condition-là.
Écoutez, avant de vous dire là, pourquoi j'ai eu des visites supervisées, parce que normalement, j'avais la garde de mon enfant, longtemps, on a sauté une étape, c'est que j'ai 2 enfants avec 2 femmes. Donc, étant donné que j'étais pour avoir la garde pleine de cet enfant-là, et je demandais une garde partagée de ma plus petite qui avait 2 ans et demi, une expertise psychosociale suggérait que j'aille mon enfant 3 fins de semaine sur 4 minimum, sans supervision, sans rien. J'étais un père qui se met au niveau de ses enfants.
Monsieur Détonné, on voit que vous êtes quelqu'un qui n'a jamais vécu ces choses-là. Les visites supervisées en soi, c'est atroce.
Très mal.
C'est un traitement ignoble.
Ouais, mais vous respectez aussi s'il y a des conditions à respecter quand même.
Comment vous voulez qu'on respecte quelque chose qui est totalement illégal,
si
qui est inhumain?
Sinon, on vous demande atroce de ne pas souffler dans l'oreille de l'enfant et de lui parler.
La DPJ décide arbitrairement que vous ne pouvez plus voir votre enfant en tant que parent responsable. Le fait qu'il vous impose des visites supervisées, déjà ça présente à votre enfant que vous êtes un être dangereux pour lui.
Voilà. Exactement.
C'est un piège à con.
C'est ce que je veux vous dire. Exactement. Parce que moi, mon enfant, j'avais un lien excessivement bon, très prouvable par les dossiers. Moi, pour m'enlever mon enfant, ma deuxième femme a inventé, elle a appelé la première pour l'aider, elle a inventé que je voulais tuer mes enfants et me suicider. Oh. Et ça, c'est bien avant Turcotte. C'est avant Turcotte. Il n'y avait pas nécessairement beaucoup d'histoires dans ce cas-là. Et automatiquement, le signalement dans mon cas, c'est que mon ex-femme a appelé l'expert psychosocial pour dire « Monsieur veut tuer les enfants puis se suicider. » Mais avec le temps, ça a été prouvé. Parce que moi, mes 2 enfants étaient sur 2 juridictions. Une Laval et l'autre des Laurentides. Et celle des Laurentides ne pouvait pas porter de signalement concernant ma petite. Elle a porté un signalement et quand j'ai rencontré l'intervenante, j'ai la preuve que le dossier est fermé, fait et sécurité non compromis. C'était un coup monté.
Oui. Mais Jacques, peut-être je poserai la question à Gilles. Gilles, j'aimerais bien savoir, moi, ce qui me... Il y a beaucoup de choses qu'on peut parler, hein, mais la chose qui me dérange un petit peu, pendant 3 ans, on coupe monsieur le contact avec sa fille.
Comme si c'était lui qui est le pédophile.
C'est ça qui me dérange. À tort, à raison, ce qu'il me dit, hein, maintenant, là, il y a des choses que je peux avaler, d'autres non. Mais 3 ans, alors c'est pas lui qui était mis en cause. Hein.
Et ça arrive souvent. Lorsque vous n'êtes pas dans les bonnes grâces de votre intervenant de DPJ, c'est vous le coupable. C'est vous qui êtes copé. Et dans ce cas-ci, on voit que monsieur n'était pas dans le sens où le DPJ voulait qu'il soit. Et à ce moment-là, c'est lui qui a été puni.
Il ne suivait pas les directives, tu veux dire.
Ah, puis en fait, on va lui en rajouter pour essayer de l'éliminer du décor, parce qu'il était dangereux pour eux. Il avait, il était menaçant. Donc, à ce moment-là, on va lui en mettre. Et même si, dans un cas comme ça, on voulait, le juge ordonnait, bon, qu'il a droit à certains droits de visite, oui. Graduants, mais il va souvent ajouter à la discrétion de DPJ. Ben là, le DPJ va rajouter, va dire, ben, pour que vous ayez plus de droits de visite, vous allez devoir faire ci, vous allez devoir faire ça, puis finalement, on n'en finit plus.
Mais Gilles, il y avait quand même une inquiétude, comme quoi, le père, Jacques, qui va essayer un petit peu de nuire, peut-être, à la fille, en lui racontant, essayer de débarrasser de ce gars-là, de faire des crises à la maison, tu sais.
Oui.
Est-ce que c'est pas une raison valable pour même vous comprenez la
raison valable pour
fait,
quoi
c'est, en fait la raison
de l'avoir séparé de le contact de sa fille là, pendant 3 ans
et de le laisser avec un pédophile l'enfant avec un pédophile
c'est ça c'est qu'ici on change la situation de bord c'est-à-dire qu'on considère que c'est le père qui est dangereux et non pas le pédophile parce que le père veut s'attaquer à des instances ou à des niveaux où on voudrait pas qu'il attaque
même les adultes dans notre société tellement super hyper technique etc se laisse berner par les mensonges de nos gouvernements
Alors,
un enfant qui a quand même un respect sans borne envers les instances évidemment intimidé et croit à ces gens-là. Je vais revenir encore à votre introduction, Monsieur Zitouni. Vous avez parlé que de l'arbitraire concernant les intervenants comme si ça dépendait de la personne. Mais l'arbitraire est vraiment inculqué, pas inculqué, mais est inscrit dans la loi. La loi autorise DPJ à jouer le rôle d'enquêteur, de juge de son propre enquête et d'exécutant de son propre jugement.
Et c'est eux qui interprètent la loi. C'est eux qui interprètent la loi à leur manière, c'est ça?
Où réside l'arbitraire.
Ouais, c'est à fait.
Et les gens qui occupent ces fonctions-là, quelqu'un intègre ne pourra pas fonctionner dans ce monde-là.
Ouais.
C'est seulement des gens sans scrupules qui peuvent continuer à évoluer et à commettre des crimes, parce qu'il faut parler carrément des crimes contre l'humanité qu'on est en train de commettre quotidiennement auprès de 45 enfants par jour. C'est ça, les statistiques de la DPJ elle-même.
45
enfants par jour.
Enlevés par...
Par jour.
Oui. Au Québec.
Oui, depuis déjà de 79, ça fait 35 ans.
Oui. Non, je sais que c'est catastrophique. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Bon, je reviens maintenant à Jacques parce qu'on a quand même un autre invité qui nous attend pour faire une courte histoire. Alors, à partir de 2010, là, quand vous avez perdu pendant 3 ans la garde de votre enfant, l'enfant est revenu avec le pédophile, si vous le souhaitez. Qu'est-ce qui s'est passé après?
Ben, est-ce qu'il s'est
le développement de l'enfant qui me dérange, moi.
Ben, moi, le développement de l'enfant, c'est sûr que, avec le test que j'ai pu constater aujourd'hui, j'ai un contact avec, mais ses études ont pris le bord, comme on dit. Elle est en échec scolaire. Elle a complètement dit qu'elle ne comprenait pas. Quand elle était à l'école, elle ne faisait que penser aux procédures judiciaires, à toute cette histoire-là. Aujourd'hui, elle est dans une école spécialisée. C'est pas spécialisée, mais pour les personnes en trouble d'apprentissage. Donc, elle est à le pas de secondaire 2 complété ou 3.
Oui.
Elle fait un DEP en coiffure. Elle débute. Bref, en tout cas, j'ai pas fini les recours la concernant, étant donné qu'elle a droit à un dédommagement exemplaire.
Mais elle vit toujours avec sa mère, c'est ça?
Oui, elle est toujours avec sa mère. Le pédophile n'est plus en contact là. Le pédophile a fait ce qu'il avait à faire.
Non,
il a quitté par lui-même. Il a fait beaucoup de dommages dans cette maison-là.
Non, ça, c'est pas vrai. Il a quitté. Donc, la fille, elle a repris un petit peu son esprit, comme on dit.
Oui, là, j'ai repris contact avec parce que moi, j'ai volontairement cesser les contacts au DPJ, étant donné que c'est totalement malsain d'être dans un bureau 4 par 8 avec un enfant pendant une heure, il est rendu quand même à 16 ans. Là.
Et observé.
À la saison maintenant.
Oui, il est rendu à 16 ans. Et t'es dans un 4 par 8, 1 heure de temps, tu peux te parler une fois par mois. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Comment je peux reprendre la confiance de mon enfant qui a eu une crainte envers moi pendant 3 ans? Donc, il n'y a pas d'activité de fait, il n'y a absolument rien. C'est un service qui est complètement inutile tant qu'à moi.
Aussi abominable que tout le système de DPJ.
Donc, j'ai moi-même écrit à ma fille par les liens Internet et j'ai obtenu son numéro de téléphone qu'elle m'a elle-même donné. Et par son conjoint, on est en train de se rencontrer. On s'est vu à deux occasions maintenant, sans DPJ. On se voit à l'extérieur une couple d'heures. Je l'ai vu la semaine dernière. On a passé un super bon temps. Je lui accorde le temps. C'est juste le temps qui peut réparer son cœur et sa tête. Moi, je ne peux pas rien devancer.
C'est grâce au conjoint de votre ex?
Comment?
Grâce au nouveau conjoint de votre ex?
Non. À son petit chum, à lui, à elle.
C'est une dame.
Son petit chum, elle a un bon petit garçon, un bon petit copain. Et il voit mes affaires Internet que je fais. Bon, j'ai développé une petite amitié avec. Et puis, ça va bien. On a des bons contacts. Je passe par lui et on se rencontre au restaurant. C'est arrivé à deux occasions, une fois qu'on les a vus dans un camp de vacances. Et, bref, je crois que c'est de même que je vais reprendre le contact que j'ai avec mon enfant sainement. Surtout pas avec le DPJ. Ça va être impossible.
Mais Jacques, qu'est-ce que vous regrettez? Finalement, qu'est-ce que vous dites aux gens qui vous écoutent là, pendant toute cette expérience, ce drame et tout, qu'est-ce que vous regrettez? Qu'est-ce que vous avez souhaité que les choses vont changer?
Ben moi, ce que je souhaite que ça change, écoutez, moi, par expérience, aujourd'hui, je peux dire que je suis encore devant les tribunaux dans de différents dossiers. Ce qu'il doit avoir, c'est une enquête publique sur la protection de la jeunesse. Ça prend la nomination d'un poste d'ombudsman présentement en Chambre de jeunesse. Ce que je veux dire, un poste d'ombudsman, c'est un civil qui connaît le droit, qui connaît la loi, qui est impartial. Oui. Avec une travailleuse sociale amène un dossier devant un juge rempli de parjures et que des avocats qui n'ont jamais rencontré l'enfant aillent parler au nom des enfants, c'est que cette personne-là rencontre réellement les enfants, fasse un vrai point de vue, une vraie, de vraie opinion de ce qui se passe réellement, rencontrer les parents, les enfants, être impartial. Et s'il y a des parjures des travailleurs sociaux, parce qu'on n'oublie pas que le parjure, selon l'article 131.1, est passible de 14 ans d'emprisonnement.
Mm-hmm. Oui.
Et on parle d'enlèvement d'enfants. Les crimes sont graves. Ça mérite la peine maximale.
Malheureusement, au Québec, l'enquête publique, on sait très bien qu'est-ce que ça veut dire que finalement, on applaudit des criminels, des mafieux à la télévision, etc.
Exactement.
On l'a vu, hein?
Mais là, présentement, j'ai un dossier. Ça devrait aboutir dans des procès aux criminels. J'ai déposé une plainte criminelle concernant plusieurs avocats, juges, et avec des preuves de dépôt de faux, parjure, complot, négligence criminelle. Négligence criminelle, enlèvement d'enfants et traite d'enfants.
Mais tout ce que vous pouvez nous
dire,
Jacques...
Parce que c'est une traite humaine, la protection de la jeunesse, avec preuve. Par contre, il y a des gens qui bloquent présentement les enquêtes.
Vous confirmez aujourd'hui sur le plateau comme quoi vous étiez impuissant devant la DPJ? Totalement impuissant?
Non. Maintenant, je peux dire qu'avant, j'ai eu des troubles avec le DPJ. Maintenant, c'est le DPJ qui a des troubles avec moi.
Ah, non, ça tient. Alors voilà, c'est la lutte, c'est le combat d'un père contre la DPJ. On va juste peut-être faire une petite pause musicale et on va revenir avec notre deuxième témoin. Alors restez à l'écoute, chers auditeurs, on va vous voir, on va vous écouter, on va vous entendre, vous allez nous entendre après la pause musicale.
Thank you. J'ai dépassé le mur du silence. Mon âme n'est plus de cette atmosphère. J'avais volé avant ma solitude.
Voilà, donc bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Je vous rappelle que vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Alors, je passerai directement avec mon deuxième invité. Bonjour, Fan. Votre nom, c'est Fan. Et vous avez eu un problème, vous aussi, malheureusement avec la DPJ. Et en 2006, votre femme, elle était en train de se promener avec les enfants dans un parc à Montréal-Nord. Et à un moment donné, les enfants, ils ont commencé à faire des gaffes, et vous me corrigez. Et elle a pris une branche d'arbre, c'est ça?
Oui.
Et puis, elle a essayé, soi-disant, de leur faire peur.
C'est vrai.
Alors, il y a un passant qui passe, il prend son cellulaire et puis il appelle la police. Deux, trois minutes après, la police débarque dans le parc. Ils vont aller voir les enfants. Ils ont suivi la mère chez elle, c'est ça?
Oui.
Et une fois, elle est rendue chez elle. Là, ils ont demandé de rencontrer les enfants. Les enfants qu'ils avaient à cette époque-là, ils avaient 7 et 3 ans et demi. Alors, ils ont vérifié qu'il n'y avait pas de traces, qu'il n'y avait pas, que les enfants étaient bien, il n'y avait pas de problème. Mais malgré tout ça, ils ont quand même appelé la DPJ.
C'est ça.
Alors, DPJ débarque chez vous. Et c'est à partir de là le problème qui commence.
C'est vrai.
Exact?
Oui.
Ok. Et qu'est-ce qui est arrivé après, monsieur?
Parce que jusqu'à 2008, je ne suis pas au courant.
Ah, vous n'étiez pas au courant, vous?
Non, rien. Okay. Malgré que j'ai rencontré l'interprète dans le DPJ, à une reprise, chez la mère.
Oui. Mais pourquoi vous ne savez pas depuis 2006 jusqu'à 2008? Vous étiez absent? Vous ne vivez pas avec la mère?
Non.
Ok, vous ne vivez pas avec la mère.
Ok, vous êtes divorcé.
Vous êtes divorcé.
Pas divorcé, mais séparé.
Mais la DPJ ne vous a pas communiqué avec vous pour vous informer ce qui s'est passé?
Non, malheureusement.
En aucun moment. Okay. Et vous dites aujourd'hui, malheureusement.
C'est ça?
Alors, quand, en 2008, vous êtes informé de la situation, qui vous a informé?
Parce que quand j'ai allé à la maison pour voir mes enfants, ils ne sont plus là.
Et vos enfants, ils n'étaient plus là?
C'est ça. Okay. Je me demandais à la mère, qu'est-ce qui se passe?
Ils sont où, mes enfants, c'est ça?
C'est ça. Elle dit qu'elles sont enlevées par le DPJ, avec un avis de présenter en cour quelques jours plus tard pour la mère.
Monsieur Fan, vous êtes en train de dire depuis 2006 jusqu'à 2008, il y avait des procédures avec la DPJ et tout, et vous, le père, vous n'avez jamais été en contact avec ces gens-là. Vous n'étiez pas informé de cette situation-là.
Non.
Et la mère ne vous a jamais rien dit?
Non. Et de plus, à ce moment-là, mon nom ne figurait pas sur le certificat de naissance de mes enfants.
Votre nom, il ne figure pas sur?
Le certificat de naissance.
Ah non? Ah.
Non.
Pourquoi de votre nom, il figure? Parce que ça, c'est une... Au Québec, c'est...
La loi autorise DPJ à agir seulement si un parent est soit informé de la situation. Ouais. Ils n'ont aucune obligation d'informer
votre parent. Le père? Et c'est le père, quand même. Mais... Il a pu récupérer ses enfants. Alors, maintenant, parce qu'aujourd'hui, ils sont dans en famille d'accueil.
Monsieur Zitouni, déjà, ouais. À la base, quand l'État prétend de pouvoir faire mieux que n'importe quel parent,
exact.
C'est complètement taré.
Ouais, mais ça,
c'est Dr Julien, par exemple, qui a dit, hein, et bien d'autres experts qui ont dit, l'État n'a pas un instinct maternel où assumer l'autorité parentale.
Elle ne peut jamais remplacer les parents, mais ça, c'est sûr.
Elle ne peut pas donner l'amour à l'enfant.
Mais ça, on ne peut pas revenir sur ça.
On peut continuer, désolé.
Mais
M. Fan, vous dites qu'il s'est passé une longue période de temps sans que vous ne sachiez quoi que ce
soit.
Depuis
2 ans, oui.
Oui, mais vous n'aviez pas un droit de visite.
Je visite tous les jours, aucun problème.
Mais personne qui
nous informe. Nous entendons très bien, aucun
et
problème.
Et jamais votre ex-conjoint vous a informé de quoi que ce soit?
Non.
Et... Ah bon?
Mais j'aimerais savoir, pendant les 2 ans, entre 2006 et 2008, vous voyez les enfants?
Oui, tous les jours.
Tous les jours?
Oui.
Et puis, à un moment donné, vous vous présentez, puis les enfants sont plus là.
C'est ça.
OK.
Et la mère, elle vous a caché tout ça, là?
Oui.
Oui. Mais une fois, vous étiez... Maintenant, ils sont, vos enfants, ils sont dans une famille d'accueil. Et vous, j'imagine, vous êtes présenté à la cour pour demander la garde de vos enfants?
Oui, c'est vrai.
OK.
Mais la juge, dans les deux premiers procès,
oui.
Je n'ai pas participé parce que mon temps ne figure pas sur les certificats des enfants.
Ah, oh my God, parce que votre nom, il ne figurait pas sur la certificat d'enfant.
Il
fallait d'abord prouver que vous êtes le père.
C'est ça.
Et vous l'avez fait?
Je l'ai fait en 2009.
Okay.
Après ça, vers le début de 2010, j'ai participé dans le procès.
D'accord.
À ce moment-là, c'était un peu tard parce que les deux premiers procès, l'intervention de la DPJ avait monté sur moi, faire des fausses allégations comme j'ai participé dans un genre criminel dans le commerce de la drogue.
Ah oui.
Ah, mais... Et puis des antécédents judiciaires.
Est-ce que vous avez des cas judiciaires?
J'en ai pas que ce gère, mais c'est pour le ticket impayé, ticket de stationnement.
Stationnement,
ça, c'est pas criminel.
Ça, c'est pas criminel, monsieur.
Quand j'ai envoyé une lettre à la DPJ pour demander des preuves, explications, elle ne me répondait pas. Elle garde le silence.
Mais vous comprenez, Gilles, le problème dans tout ça, là, c'est que le gouvernement, je sais pas, aveuglement, je comprends pas, vous me corrigez, comment...
Aveuglement
le père,
volontaire.
Le père, volontaire, c'est ça le mot exact. Comment le père, il est là, et qui a un énorme amour pour ses enfants, alors qu'il demande de récupérer ses enfants, et on préfère les mettre dans une famille d'accueil, et on sait, on sait pas... Hein,
mais pourquoi parler d'aveuglement? Il faut parler de manière perverse.
Volontaire.
Perverse. Ouais.
C'est de la perversion. Mais c'est un espèce de labyrinthe aussi. C'est-à-dire qu'à partir du moment, et c'est très fonctionnariste hein, comme système, à partir du moment où il y a des procédures qui sont entamées, on dirait que tout le monde se rive sur les procédures, et le côté humain prend le bord.
Voilà.
Écoutez, c'est déjà passé en cours. Ah ben là, il y a déjà un jugement qui a été posé. Ah ben là, c'est la description de la discrétion de la DPJ. On a demandé ça à la mère. Ah ben là, écoutez, si vous voulez avoir ça, vous allez devoir faire ça. Et finalement, on s'en sort plus. C'est une espèce de méandre. Et le père est là, puis il dit, oui, mais moi, j'aimerais bien avoir...
C'est ça.
Et finalement, on dirait que personne ne se responsabilise au plan humain dans cette situation.
Et le père au Québec...
Tout à fait. Le père
au Québec est un être jetable après usage. Il faut préciser.
Mais c'est précisément ça, c'est le but de comment cette loi a été faite et pourquoi ça fonctionne comme ça, c'est déresponsabiliser l'État. L'État commet traditionnellement la loi de 64 à 79... donner les pleins pouvoirs aux juges. L'enfant n'avait aucun droit ni à la défense, ni à faire appel. Alors, en 77, le gouvernement, après des dénonciations, des gros scandales de maltraitance des enfants dans les institutions, était obligé de revoir, mais il s'est sauvé de ses responsabilités envers les victimes de ce système étatique. Et pour ne pas avoir à les dédommager, il a reconduit carrément ce système arbitraire qui ne fait que faire taire les gens devant leurs crimes.
Mais Gilles, l'inaction de l'État, okay, on sait que les politiciens, à peu près, vous n'allez pas me dire qu'ils ne savent pas, hein, tout le monde sait un petit peu la situation.
Tous les députés le savent.
Tous les députés le savent.
Absolument. Enfin, moi, personnellement, j'ai rencontré au moins une dizaine de députés, des ministres, etc.
Ils en savent une partie, mais ils ne veulent pas le savoir. C'est un peu... Excusez l'analogie, mais un peu comme la mère Tremblay, oh, moi, je n'ai rien vu, oh, ben, moi, je ne veux pas le savoir.
Personnellement, j'ai fait la démonstration aux députés qu'il s'agisse des crimes contre l'humanité.
Ah oui. Mais j'aimerais bien savoir à vous même, Stoll, les enfants, là, depuis 20 ans, il y a des enfants de la DPJ qui sont aujourd'hui, qui ont 20 ans, eux, est-ce qu'ils ne se prononcent pas pour dire, écoutez...
Comment l'être humain... Monsieur Zitoni, je vais vous expliquer une chose.
Oui.
Le lien, les psychologues le savent très bien, le lien dans le crime est beaucoup plus fort que le lien dans l'amour.
Oui.
Pourquoi?
Oui.
Le lien dans le crime, ce sont nos instincts les plus bas. La peur de punition, la crainte de survie, etc. Tandis que l'amour, c'est quelque chose de volontaire.
Oui.
Et ça, c'est facilement... On peut briser beaucoup plus facilement.
Oui, mais...
Par contre, un vrai amour d'un adulte bien assumé, il peut transporter des montagnes, il peut traverser des épreuves terribles, et c'est par l'amour qu'il peut le faire. Mais les criminels, une fois la chaîne brisée, ils vont se dénoncer mutuellement. Mmh, aussi, il y a une enquête. Les intervenants de DPJ, les directeurs, ils vont se dénoncer mutuellement. Nos ministres responsables de cette situation, comme notre ex-première ministre, Mme Marois, c'est elle qui a promulgué cette loi en 77 et qui a fait une grosse campagne que désormais, l'enfant ne fait plus objet, mais sujet de loi. Mon œil, c'est absolument pas vrai. Ça continuait, l'arbitraire continue depuis.
Je comprends, Mylène, moi je parlais de cette génération-là qui se rendit aujourd'hui qu'ils ont 20 ans.
Hein? Ben, c'est-à-dire que... Moi, je peux confirmer que ces enfants qui sont massacrés par le système qu'on appelle faussement protection de l'enfance, ils sont dans les prisons du Québec. Ils constituent l'essentiel de la population.
Et la clientèle de la DPJ.
Vous êtes en train de dire tous les enfants de la DPJ sont en prison?
C'est-à-dire que si on fait une enquête dans les... Non, pas
mais
tous les enfants.
Mais il y a des gens qui sont universitaires
qui sont en prison, il y a une bonne majorité qui sont passés entre les mains de la DPJ.
Chez ceux-là.
Comme la majorité...
Excuse-moi.
C'était dans l'émission, dans le documentaire de Paul Arcan, je pense, ou dans d'autres documentaires, je ne me rappelle plus tellement, qui a démontré que parmi les sans-abri à Montréal, la majorité, c'est des enfants de DPJ.
De DPJ.
Absolument.
Oui. Absolument.
Lâchés à 18 ans, on leur lave le cerveau, on leur dit, on leur apprend tous les jours, vos parents sont des gens mauvais. Alors, comment un enfant peut se sentir dans ça? Moi, je suis foncièrement mauvais. Je peux jamais devenir une bonne personne puisque je n'ai pas l'amour de mes parents. Et c'est l'État qui fait ça. Oui. Ce sont nos concitoyens, des intervenants de DPJ, des juges au tribunal de la jeunesse, et nos députés, etc., tous les décideurs qui participent à ça.
Je reviens à vous. Là. Vous, je sais que il y a une est-ce que vous pensez qu'il y a une possibilité de récupérer vos enfants ou vous pensez que c'est impossible de récupérer vos enfants?
Parce
à ce stade-là.
Les deux grands frères, il y avait probabilité.
Oui.
Mais la petite sœur, je ne pense pas.
Tu ne penses pas là-bas?
Parce qu'on avait enlevé 2 jours après sa naissance à l'hôpital.
2 jours après sa naissance?
C'est ça. Oui. Elle ne reconnaît pas.
Est-ce que vous l'avez déjà vue?
Oui.
Oui.
Mais parce que
le lien, vous le dire, il est brisé, ça.
C'est ça.
Elle n'a jamais commencé.
Elle ne nous connaît pas. Elle pleure toujours. Donc dès qu'elle avait environ dès la naissance jusqu'à 2 ans, c'est pas pire. On peut la jouer de tout. Mais 2 ans et demi, elle avait la connaissance. Elle nous voyait comme des étrangers. Elle n'est pas capable de nous rapprocher. Et puis la DPJ dit que nous n'avons pas que capable de contrôler ou de familiariser l'enfant.
Oui.
Elle coupe directement les visites.
Mais Fan, maintenant revenons juste à une question que j'avais oublié de vous poser. Vous connaissez la mère de vos enfants très bien. Comment vous la décrivez, cette mère-là? Est-ce que vous pensez vraiment qu'elle est cruelle, qu'il faut vraiment qu'elle ne peut pas garder
ses
enfants?
C'est une mère très gentille et douce.
Oui.
Elle a su protéger ses enfants.
Elle aime ses enfants?
Même la DPJ l'avait reconnu qu'elle a su protéger les enfants.
Okay.
Parce qu'il profite d'une occasion que quand elle a tout juste emmené les enfants au Vietnam ici, elle avait oublié une visite avec le docteur pour une vérification médicale, c'est tout.
Okay. Mais est-ce que si vous étiez au Vietnam, pensez-vous que l'État, ils vont vous prendre vos enfants là-bas?
Non.
Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la DPJ.
C'est une affaire typiquement nord-américaine.
Ouais, ouais.
Les tribunaux d'exception, les tribunaux de la jeunesse existent déjà depuis 1889. Le premier tribunal comme ça était en état d'Illinois.
Ouais.
Okay? Et depuis, ça se traduit. C'est typique pour l'Amérique du Nord. Maintenant, malheureusement, depuis la Deuxième Guerre mondiale, ça se répand dans les pays européens de l'Ouest. Ça n'existe pas dans les pays ex-communistes, mais l'Union européenne pousse les États à adopter ce système malfaiteur.
Mafieux.
Mafieux.
Malheureusement. Actuellement, M. Fan, est-ce que vos deux enfants sont uniquement en famille d'accueil ou il y en a un qui est en centre d'accueil?
Est-ce qu'ils sont séparés ou non? C'est ça. Est-ce que les enfants sont séparés ou vivent ensemble?
Ils sont tous vivants séparément des parents.
La cruauté n'a pas de limite de l'État.
Mais la petite sœur n'est pas capable de voir encore ses grands frères.
Donc les enfants, ils sont séparés. Selon vous, c'était possible aussi de mettre les enfants en même temps ensemble.
Il suffit d'une volonté d'un intervenant
de l'État. Comment ils peuvent permettre que les enfants
séparer les enfants
Que les enfants fassent une clique contre eux.
My God.
Il faut les briser. Il faut briser ces témoins de leur crime.
Non, mais c'est tout à fait. Moi, je pense que des enfants à bas âge, comme ça, les séparer pour qu'ils ne peuvent pas continuer à vivre ensemble, frères et sœurs.
Pour que les liens familiaux.
Ça, c'est catastrophique.
C'est criminel.
Absolument. Je reviens juste. Oui, Fan.
De plus, la DPJ disait à mes enfants que les parents avaient des problèmes. Mais ils ne veulent pas corriger. C'est pour cela que vous êtes ici.
Mais si vous avez des problèmes, là, c'est un autre... Le problème, là, c'est que les enfants... Imaginez-vous, chers auditeurs, comment deux enfants, alors qu'on peut les mettre dans une famille d'accueil, que peuvent grandir ensemble, frères et sœurs.
C'est systématique.
Je reviens avec vous, Jacques. Les gens qui vous écoutent, ils ont écouté votre histoire. Vous avez écouté l'histoire de votre, de notre collègue qui s'est fan ici. Qu'est-ce que vous avez sur le cœur? Quel est le message que vous pouvez envoyer aux gens qui vous écoutent ce matin?
OK. Premièrement, j'aimerais dire aux parents de ne pas désespérer, ne pas sombrer dans l'alcool, dans les drogues ou toute forme d'abus, ne pas vous confier à n'importe qui, rechercher des familles, quelqu'un de confiance, quelqu'un qui va vous écouter, qui ne vous jugera pas, parce que souvent quand on vit quelque chose avec la protection de la jeunesse, malheureusement beaucoup de personnes, même si c'est des mensonges, beaucoup de personnes vivent des préjugés ou se sentent rabaissées. Mais les parents qui sont victimes, les parents victimes, je vous dis, levez la tête haute, baissez pas les bras, votre enfant vaut la peine. Imaginez-vous ce que votre enfant peut penser. Comportez-vous comme un héros et non comme un zéro. Oui. Soyez fiers. Moi, ce que je peux faire pour... en tout cas, bref, moi, je continue mon débat là-dedans. Je vous conseille de chercher de l'aide nécessaire auprès de proches, parce que même dans tous les jugements, c'est marqué que aide, soutien et conseil soient apportés aux parents et vous n'aurez aucune aide.
Continuer à témoigner l'amour aux enfants, c'est ça ce qui peut les sauver d'une détresse, les enfants.
Exactement.
Pensez aux enfants.
Oui. Quelques secondes avant que Fan dise son dernier mot, pour vous, Gilles Boivin, est-ce qu'on peut vraiment généraliser tous les gens, tout le personnel de la DPJ sont tous pareils, corrompus ou bien on peut dire...
Il y a des bons intervenants.
Voilà,
sauf que ce système-là est tellement écrasant que ou tu rentres dans le moule ou tu te fais éjecter à moyen terme.
Ça, c'est tout à fait juste. Fan, dernier mot pour les gens qui vous écoutent. Qu'est-ce que vous allez dire?
Je dis qu'il faut que vous gardez la tête haute et puis l'espoir de revoir votre enfant dans un futur. Oui. Faites toutes les démarches possibles pour que la justice soit rendue.
Pour vous...
Voilà.
Rapidement.
J'ai déjà dit.
Parfait. Ernest?
Il faut témoigner l'amour aux enfants par tous les moyens possibles.
Il faut continuer.
Évidemment, il ne faut jamais tomber dans l'illégalité.
Il ne faut pas baisser les bras non plus.
Il faut dénoncer les crimes. Et on a le droit et obligation de le faire parce que le code criminel nous l'oblige.
Exactement.
Voilà, donc voilà, chers auditeurs, malheureusement, on arrive à la fin de cette émission. Gilles, vous avez voulu dire quelque chose?
J'aimerais dire qu'on va revenir sur
revenir
ces sujets-là, parce qu'aujourd'hui, ça a été assez diversifié comme sujet.
Ouais,
parce que quand on aborde deux témoignages comme ça, on aborde différentes problématiques. Et ces problématiques-là, ça seront évidemment touchées maintes et maintes fois.
Alors, Gilles,
sur le temps relié par la loi sur la protection de la jeunesse.
Tout à fait. Donc, monsieur Gilles Boivin, monsieur Yann Stoll, Ernest, Monsieur Fan, Monsieur Jacques, et je vous dis merci d'avoir vraiment animé cette table aujourd'hui autour de la DPJ.
Merci à vous, Monsieur Zitoni.
Je dis aussi merci à notre technicien de son. Alors, chers auditeurs, on donnera un rendez-vous la semaine prochaine avec l'émission du Mouvement Action Justice. Voilà, donc passez une excellente fin de semaine. Au revoir.
Sur les problèmes de société, où des héros et des minables vous parlent en toute liberté. Sont-ils victimes? Sont-ils coupables? Ce soir, voici pour commencer quelques racketteurs redoutables qui font la sortie des lycées. Ils vont pour vous à table, à condition d'être masqué, un témoignage inoubliable, un grand moment de vérité. Ce soir, après la roue de la fortune, une heure.
moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver.
HEC Montréal, ces lettres vous mèneront loin. Multilingue, international, le baccalauréat en administration des affaires vous est offert en trois cheminements. En français ou bilingue français-anglais ou trilingue français-anglais-espagnol. Le baccalauréat en administration des affaires de HEC Montréal, une expérience universitaire à votre portée. Pour vivre une expérience exceptionnelle dans une université renommée et internationale. Information hec.ca. HEC Montréal, ces lettres vous mèneront loin. Jusqu'où irez-vous?
Informez-vous en espagnol. Pulso, le journal des latino-américains à Montréal. Retrouvez Pulso dans une grande partie du commerce latino-américain ou abonnez-vous gratuitement. Pulso.ca. Pulso.ca. Pulso, information en espagnol.
Du 24 octobre au 8 novembre, le Festival du monde arabe de Montréal présente plus de 100 concerts, spectacles, débats, conférences et films en plus d'une programmation gratuite. Gnawa, Raï Algérien, musique andalouse, tarab, rythme du désert, musique sacrée, théâtre, conte et humour. Ne manquez pas le spectacle Tapis volant d'Alep à Bagdad, le prince du Raï, Kader japonais, Aïcha Redouane, le groupe Freak Lane et beaucoup d'autres. Visitez festivalarabe.com.
Radio Centre-Ville, 102,3 FM.